Bonjour, André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bonjour Françoise Ménard.
Bonjour André.
Bonjour Michel Lagouin.
Bonjour André.
Content de vous retrouver aujourd'hui. Nous poursuivons avec vous notre voyage dans l'univers d'Agatha Christie. Après le meurtre de Roger Ackroyd et de son héros Hercule Poirot, voici Miss Marple, l'héroïne de son roman Une poignée de seigle, titre original A Pocket Full of Rye, publié le 9 novembre 1953 au Royaume-Uni, mettant en scène Miss Marple. Il est publié en 1954 aux États-Unis et en 1955 en France. Le titre du roman, nous l'avons dit, A Pocket Full of Rye, provient d'une ancienne comptine anglaise, Sing a Song of Sixpence. Le roman évoque le triple meurtre, dont un double empoisonnement commis la même journée. Sa particularité est que la poignée de seigle qui donne son titre n'a aucun lien avec les trois meurtres. Le 5 novembre, vers 12h30, Rex Fortescue est retrouvé mourant dans son bureau, après que sa secrétaire lui a apporté son thé. Scotland Yard dépêche immédiatement l'inspecteur Neil et un sergent. Les signes cliniques montrent que Rex Fortescue a été empoisonné à la taxine, poison issu de l'IF. Et l'on constate que le cadavre porte un veston contenant une poignée de seigle dans une poche. Neil se rend alors dans la petite ville fictive de Baden Heath, au sein du cottage portant le nom Yew Tree Lodge, le pavillon des ifs. Il interroge plusieurs membres de la maisonnée, évidemment, l'épouse de Rex, Adèle Fortescue, qui a 20 ans de moins que son mari et qui fréquente un amant, et la suspecte la plus évidente. Un autre suspect est le fils aîné, Percival, absent pour des motifs professionnels lors du décès de son père. Il serait en froid avec lui. En outre, la fille Hélène en voulait à son père pour son refus d'avoir une liaison avec un homme qu'elle aime. Voici un premier extrait de la fin du chapitre 2, où l'inspecteur Neil interroge Madame Griffiths, dactylographe à l'entreprise de Rex Fortescue. Avec Françoise, qui jouera le rôle de Madame Griffiths, Michel, l'inspecteur Nice, et votre serviteur, le narrateur.
Décrivez-moi la famille.
Mrs. Fortescue est sa seconde femme. Elle est beaucoup plus jeune que lui. Ils se sont mariés il y a environ 2 ans. La première, Mrs. Fortescue, a été morte depuis longtemps. Il y a 2 fils et 1 fille du premier lit. La fille vit toujours à la maison, ainsi que l'aîné des fils qui est, par ailleurs, associé de la firme. Il est, hélas, actuellement en voyage d'affaires dans le Nord, et nous ne l'attendons pas avant demain.
Quand est-il parti ?
Avant-hier.
Vous avez essayé de le joindre ?
Oui. Dès que Mr. Fortescue a été transporté à l'hôpital, j'ai appelé le Mainland à Manchester, où il était censé descendre hier. Mais il en est reparti ce matin de bonne heure. Je crois qu'il devait se rendre à Sheffield et Leicester, mais je n'en sais pas plus. Je peux néanmoins vous fournir les noms de quelques sociétés qu'il était susceptible d'y visiter.
Pas de doute. C'était là une femme précise et efficace, son jeune inspecteur. Et si d'aventure elle assassinait un homme, elle le ferait indubitablement avec le maximum d'efficacité. Mais il s'astreignit à abandonner ses spéculations hasardeuses pour concentrer le gros de ses forces sur le front familial de Mr. Fortescue.
Vous avez mentionné un second fils ?
Oui, mais suite à une brouille avec son père, il vit à l'étranger.
Les 2 fils sont mariés ?
Oui, et Mr. Percival, depuis 3 ans. Sa femme et lui occupent un appartement indépendant à la loge aux ifs. Mais ils vont emménager d'ici peu dans leur propre maison, toujours à Baden Heath.
Vous avez pu parler à Mrs. Percival Fortescue quand vous avez appelé ?
Non, elle est à Londres pour la journée. Monsieur Lancelot s'est marié il y a moins d'1 an. Avec la veuve de Lord Frederick Hansis. Vous avez dû la voir en photo. Dans le Tetler, entouré de chevaux, bien entendu, ou en personne, dans les tribus de Steeplechase.
Le souffle de Miss Griffiths était précipité, et ses joues avaient soudain délicatement rosi. Toujours prompte à capter les émotions de ses contemporains, Neil comprit que ce mariage dans les hautes sphères satisfaisait le snobisme latent de la vieille fille, tout en faisant vibrer sa fibre romanesque. L'aristocratie, pour les Miss Griffiths de la planète, serait toujours l'aristocratie. Et le fait que feu Lord Frederick Anstice ait souffert d'une réputation plus que douteuse dans les milieux hippiques était sûrement ignoré de son interlocutrice. Freddy Anstice s'était, en effet, fait sauter la cervelle sitôt annoncée l'ouverture d'une enquête de la commission des jeux sur les dernières performances de l'un de ses chevaux. Neil se rappelait vaguement deux ou trois détails au sujet de sa femme. Fille d'un pair d'Irlande, elle avait précédemment convolé avec un pilote de chasse tombé au cours de la bataille d'Angleterre. Et voilà qu'elle aurait donc maintenant épousé la brebis galeuse de la famille Fortescue, car Neil ne doutait pas un instant que la brouille avec son père, à laquelle Miss Griffiths avait fait allusion du bout des lèvres, était due à quelques fâcheux incidents de parcours dans la carrière du jeune Lancelot. Lancelot Fortescue, quel nom ! Et comment s'appelait l'autre déjà, Percival ? Il se demanda à quoi il avait bien pu ressembler Miss Fortescue numéro 1. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle avait des goûts pas ordinaires sur le chapitre des prénoms. Une voix d'homme ne tarda pas à répondre. « Baydonheath, 3400, j'écoute. »«
Je souhaiterais parler à Mrs. Fortescue, ou à défaut à Miss Fortescue. »«
Elles ne sont là ni l'une ni l'autre, je regrette. »«
Vous êtes le majordome ?»«
C'est exact, oui. »«
Mr. Fortescue a été transporté à l'hôpital. »«
Je sais, on nous a téléphoné pour nous prévenir, mais je ne vois pas ce que je peux faire. » Mr. Val est dans le nord et Mrs. Fortescue partie jouer au golf. Mrs. Val s'est rendue à Londres et Miss Hélène participe à un rallye avec son groupe d'éclaireuses.
Il n'y a personne dans la maison à qui je puisse parler de l'état de santé de Mr. Fortescue. C'est important.
Eh bien, j'en sais trop rien. Il y a bien Miss Ramsbottom, mais elle ne prend jamais le téléphone. Ou alors, encore Miss Dove. C'est comme qui dirait la gouvernante.
Va pour Miss Dove.
Je m'en vais tâcher de vous la trouver. Son pas pesant s'éveilla en s'éloignant des échos à l'autre bout du fil. L'inspecteur Neil n'entendit en revanche point ne pas léger s'approcher, mais une voix féminine qui fait bientôt vibrer l'écouteur.
Allô ? Miss Dove à l'appareil ?
J'ai le triste devoir de vous annoncer, Miss Dove, que Mr. Fortescue est décédé il y a quelques minutes à l'hôpital St. Jude. Il avait été victime de violents malaises à son bureau. Il est impératif que je puisse joindre les membres de sa famille.
Bien sûr, je n'aurais jamais imaginé que... Ça ne pouvait pas plus mal tomber, si j'ose m'exprimer ainsi. La personne avec laquelle il faut que vous entriez en contact est Mr. Percival Fortescue. C'est lui qui pourra prendre les dispositions nécessaires. Peut-être pourriez-vous essayer de le joindre au Midland ou à Manchester ou encore au Grand à Leicester. À moins que vous ne tentiez votre chance chez Shira ou chez Bond, toujours à Leicester. Je ne connais hélas pas leur numéro de téléphone, mais ce sont des firmes qu'il allait contacter et peut-être qu'on y sera à même de vous renseigner sur son emploi du temps de la journée. Mrs. Fortescue sera sûrement de retour pour le dîner, mais voire pour le thé. Ce sera pour elle un choc très dur. Ça a été très soudain, non ?
L'inspecteur Neil poursuit son enquête et c'est au tour de Mary Dove, gouvernante des époux Fortescue, d'être interrogée. On poursuit donc avec un extrait de la fin du chapitre 4.
Ils sont tous parfaitement odieux. Feu Mr. Fortescue était le genre de fripouille qui retombe toujours sur ses pattes. Il se vantait jusqu'à plus soif de ses mille et une recettes pour plumer ses clients, voire ses partenaires. Il était grossier, mal appris, un vrai mufle. Mrs. Fortescue, Adèle, sa seconde femme, a presque 30 ans de moins que lui. Il a déniché à Brighton. Elle y était manicure, en attendant de décrocher le gros lot. C'est une beauté spectaculaire et un véritable sexe ambulance, si vous voyez ce que j'entends par là.
Choqué de tels propos, l'inspecteur Neil fit néanmoins en sorte de n'en rien laisser voir. N'empêche, une jeune personne comme Mary Dove n'aurait à son avis jamais dû proférer des horreurs pareilles. La dite personne n'en poursuivait pas moins comme si de rien n'était.
Adèle l'a épousée pour son argent, cela va de soi. Et son fils Percival, sa fille Hélène, ne l'ont toujours pas digéré. Ils lui en font voir des vertes et des pas mûres, mais elle, pas folle. Elle fait celle qui s'en moque ou qui n'a rien compris. Elle sait qu'elle peut mener le vieux par le bout du nez. Bon sang, voilà que j'en parle encore au présent. Je n'arrive pas à me mettre dans la tête qu'il est mort.
Parlez-moi de son fils.
Percival, chéri. Val, comme l'appelle sa femme. Percival est un hypocrite et un faucheton. Il est guindé, sournois, financier. Il crève de frousse devant son père et s'est toujours laissé houspiller par lui. Ce qui ne l'empêche pas, cependant, d'être assez roublard pour mener sa barque. À l'inverse de son père, c'est un radin. Les économies des bouts de chandelle, c'est sa raison de vivre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a mis tout ce temps à se trouver une maison bien à lui. 3 pièces en enfila d'ici. C'est toujours autant qu'il ne sortait pas de sa poche.
Et sa femme ?
Jennifer est du genre effacé et a l'air bête comme ses pieds. Cela dit, il ne faudrait peut-être pas s'y fier. Avant de se marier, elle était infirmière dans un service hospitalier. Et c'est en soignant Percival d'une pneumonie qu'elle a rencontré le prince charmant. Le vieux a été horriblement déçu par ce mariage. Il était snob comme pas deux et il aurait préféré une belle fille plus reluisante. Il méprisait la pauvre Mrs. Val. Il l'ignorait. Elle le déteste. Le détestait de tout son cœur, à mon humble avis. Ses principaux centres d'intérêt sont le lèche-vitrine et le cinéma. Et son grief majeur, que son mari soit aussi près de ses sous.
Et la fille ?
Hélène ? Elle me fait un peu pitié. Ce n'est pas le mauvais cheval, le type même de la collégienne montée en graine, mais qui ne mûrira jamais. Sportive, à la tête d'un groupe de guides ou d'éclaireuses, enfin ce genre-là, quoi. Elle s'était entichée, il n'y a pas de ça bien longtemps, d'un jeune enseignant plutôt mal embouché, mais papa a découvert qu'il avait le cœur un peu trop à gauche et a mis le haut là.
Et elle n'a pas eu le cran de se rebiffer ?
Si, mais c'est son coquin qui s'est tiré des flûtes. Question d'argent, là encore, j'imagine. Hélène n'est pas particulièrement séduisante, la pauvre choute.
Et l'autre fils ?
Je ne l'ai jamais vu. Un beau gosse, à ce qu'il paraît. Et un très mauvais sujet. Il traîne derrière lui une casserole, une vieille histoire de chèque falsifié. Il vit au Kenya.
Il était brouillé avec son père, c'est ça ?
Oui, mais comme Mr. Fortescue en avait déjà fait son associé dans l'affaire, il n'a pas pu le déshériter. Il s'est contenté de couper les ponts. Et si par malheur on mentionnait Lance devant le vieux, celui-ci s'exclamait « Qu'on ne me parle plus de ce voyou, ce n'est plus mon fils. » N'empêche que...
Que quoi ?
Que je ne serais pas surprise si le vieux avait manigancé son retour au bercail.
Qu'est-ce qui vous fait croire ça ?
Le fait qu'il y a un mois environ, il se soit mis dans une colère épouvantable contre Percival. Il l'a accusé de magouiller derrière son dos. Ce qu'il avait magouillé au juste, je n'en sais rien. Enfin, toujours est-il que le vieux était ivre de rage et que Percival a brusquement cessé d'être le chouchou à son papa. Il a d'ailleurs beaucoup changé ces temps derniers.
Mr. Fortescue ?
Non, Percival. S'est visiblement mis à se faire un sang d'encre.
Revenons aux domestiques. Vous m'avez déjà décrit les Crump. Qu'y a-t-il d'autre dans l'équipe ?
Gladys Martin, la petite bonne, la seconde femme de chambre, comme elles aiment de nos jours à se faire appeler. Elle fait le ménage du bas, met le couvert, le débarrasse et aide Crump à servir à table. Très brave fille, mais qui n'a pas inventé la poudre. Un peu chien battu sur les bords. La femme de chambre type, c'est Ellen Curtis, plus de la première jeunesse, acariâtre et toujours à vitupérer. À part ça, service impeccable. Quant au reste du personnel, il vient de l'extérieur, des femmes à la journée pour faire le gros.
Nous avons donc fait le tour.
Pas tout à fait. Il reste encore la vieille Miss Rumbleton.
Qui est-ce ?
La belle-sœur de Mr. Fortescue. La sœur de sa première femme. La dite première femme était passablement plus âgée que lui et la sœur en question nettement plus vieille qu'elle. Ce qui nous la met bien au-delà des 70 printemps. Elle a son coin bien à elle au second, où elle sait se faire la cuisine et tout, juste aidée par une femme de ménage. C'est une excentrique qui n'a jamais encaissé son beau-frère, mais qui était venue s'installer ici du vivant de sa sœur et qui, après sa mort, n'en est pas repartie pour autant. Quant à Mr. Fortescue, il ne lui a jamais cherché noise. Il faut dire que c'est un sacré numéro, la tante et fille.
Et cette fois, c'est tout ?
On en a fait le tour, oui.
Nous en venons donc à vous, Miss Dove.
Vous voulez mon curriculum vitae ? Je suis orpheline. J'ai suivi un cours de secrétariat au collège Saint-Alfred. Sortie de là, j'ai décroché un emploi de sténo que j'ai très vite laissé choir pour un autre. Tout ça avant de conclure que j'avais opté pour le mauvais filon et de me lancer dans ma carrière actuelle. J'ai jusqu'à présent sévi chez 3 employeurs. Au bout d'un an, 18 mois au maximum, j'en ai ma claque de voir toujours les mêmes têtes et je tire ma révérence. Je suis à la loge aux ifs depuis 1 an et quelques. Je vais taper les noms et adresses de mes divers employeurs et remettre le tout avec copie de mes références au sergent. Hey, c'est bien ça. Cette façon d'agir vous satisfera-t-elle ?
Pleinement, Miss Dove.
Silencieux un moment, Neil redonna un coup de manivelle à son film mental. Le temps d'imaginer Miss Dove en train de tripatouiller le petit déjeuner de Mr. Fortescue. Puis, un flashback lui permit de la voir cueillir méthodiquement des baies d'ifs et en remplir un petit panier. Avec un soupir, il reprit pied dans la réalité.
Maintenant, je voudrais voir cette fille, Gladys. Et ensuite, vous m'enverrez la femme de chambre, Ellen. À propos, Miss Dove, auriez-vous une idée de la raison pour laquelle Mr. Fortescue voudrait bien transporter du grain en vrac dans sa poche ?
Du grain ?
Oui. Du grain. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ?
Oh, rigoureusement rien.
Qui s'occupait de ses vêtements ?
Crump.
Je vois. Mr. et Mrs. Fortescue faisaient-ils chambre commune ?
Oui. Il avait cependant ses propres salles de bain et dressing room, bien sûr. Et elle aussi. Je crois vraiment qu'elle ne devrait plus tarder.
Vous savez, Miss Dove, je trouve quand même bizarre qu'avec 3 terrains de golf dans les parages immédiats, ce qui est à la fois beaucoup et pas tant que ça, il n'ait pas été possible de découvrir sur lequel Miss Fortescue avait bien pu aller jouer.
Bizarre. La chose vous le paraîtrait beaucoup moins, inspecteur, s'il s'avérait qu'elle ne soit pas allée y jouer du tout.
On m'a cependant très précisément informé qu'elle était allée jouer au golf.
Elle a pris ses clubs et annoncé qu'elle y allait. Elle était au volant, faut-il le préciser, de sa propre voiture.
Et avec qui est-elle allée jouer ? Vous le savez ?
Je crois vraisemblable qu'il s'agit d'un certain Mr. Vivian Dubois.
Je vois.
Je vous envoie Gladys. La peau va sans doute mourir de peur. Je vous conseille quand même de ne pas prendre trop au pied de la lettre tout ce que j'ai pu vous raconter. J'ai l'esprit extrêmement mal tourné.
Le même jour que celui du meurtre de Rex Fortescue, en fin d'après-midi, Adèle Fortescue est, elle aussi, empoisonnée en buvant son thé et en mangeant ses tartines de miel qui contenaient du cyanure de potassium. L'inspecteur Neil, qui la tenait pour l'empoisonneuse de son époux, est stupéfait. Il l'est encore plus quand, dans la soirée, on découvre le cadavre de Gladys Martin, femme de chambre qui avait préparé le thé d'Adèle, étranglée dans l'arrière-cour à l'aide d'un bas en nylon. Son nez a été massacré par le crochet d'un cintre à vêtements. Dans la soirée et le lendemain matin, l'inspecteur Neil continue les interrogatoires des membres de la maisonnée. Ainsi, le fils aîné Percival affirme que son père était devenu instable et était en train de ruiner l'entreprise familiale. Sur ces entrefaites, Miss Marple débarque dans le domaine familial. La troisième victime, Gladys Martin, avait jadis travaillé chez elle comme femme de ménage. Ayant lu dans le journal du matin une page consacrée à l'assassinat, elle est venue s'enquérir des circonstances du meurtre. Madame Ramsbottom, belle-sœur de Rex, lui propose de dormir dans la vaste propriété dans une chambre inoccupée. L'inspecteur Neil, dépassé par les événements, accepte l'aide de Miss Marple. Et les deux entament une discussion avec l'inspecteur Neil. En voici une partie, lue par Françoise, Miss Marple, Michel, inspecteur Neil, et votre serviteur, le narrateur.
C'est très gentil à vous, inspecteur. Et je vous sais gré de ne pas m'avoir tout bonnement prise pour une vieillarde avide de sensations.
L'inspecteur ne put dissimuler un sourire inattendu. Il était en train de se dire que Miss Marple ne ressemblait guère à l'image qu'on se fait d'ordinaire d'une furie vengeresse. Et pourtant, se disait-il, c'était à coup sûr très exactement ce qu'elle était.
Les comptes rendus des journaux privilégient volontiers le sensationnel et se montrent moins soucieux d'exactitude qu'on ne pourrait le souhaiter. Ce qu'on aimerait parfois, c'est disposer des faits dans leur absolue nudité.
Ils ne sont pas par essence outrageusement enrobés dans la dentelle. Dépouillés de toute fioriture, voilà ce que cela donne. Mr. Fortescue est mort à son bureau, victime d'un empoisonnement à la taxine. La taxine s'obtient à partir des baies ou des aiguilles d'ifs.
Ce qui est bien pratique ici.
Certes, mais nous n'avons pas la preuve qu'elle ait été obtenue sur place, ou du moins, pas encore.
Il avait insisté sur ce dernier point parce qu'il s'agissait précisément là d'un domaine où Miss Marple pourrait se révéler précieuse. C'était bien le genre de vieille chouette à concocter elle-même tisane, purge, remontant et autres liqueurs maison. Si donc une quelconque mixture ou décoction de baies d'ifs avait mijoté dans les chaudrons de la loge aux ifs, c'était elle qui avait le plus de chances de le subodorer.
Et Mrs. Fortescue ?
Mrs. Fortescue a pris le thé en famille dans la bibliothèque. La dernière personne à quitter la pièce a été Miss Elaine Fortescue, sa belle-fille, laquelle déclare que quand elle est sortie, Mrs. Fortescue versait une seconde tasse de thé. Quelques 20 minutes ou une demi-heure après, Miss Dove, qui exerce les fonctions de gouvernante, est entrée pour desservir. Mrs. Fortescue était toujours assise sur le canapé, à ceci près qu'elle était morte. Sa tasse à thé aux trois quarts vide se trouvait à côté d'elle, et l'analyse du fond a révélé la présence de cyanure de potassium.
Poison à effet quasi immédiat, si je ne m'abuse.
Exact.
C'est un produit tellement dangereux. On est forcé d'en avoir chez soi pour se débarrasser des nids de guêpes, mais je ne manie toujours pas, et avec la plus extrême et extrême prudence.
Et vous faites bien. On en a trouvé ici un paquet dans la cabane du jardinier.
Bien pratique, encore une fois. Mrs. Fortescue avait-elle mangé quelque chose?
Oh oui. C'était un thé du genre somptueux.
Des gâteaux, j'imagine. Du pain, du beurre, des scones peut-être, de la confiture, du miel?
Oui, il y avait du miel et des scones, du gâteau au chocolat, du gâteau roulé et des petits fours. Mais je vous rappelle, Miss Marple, que le cyanure était dans le thé.
Oui, bien sûr. J'ai parfaitement saisi. Je me représentais tout juste la scène, comme on dit. Tout ça est très significatif, vous ne trouvez pas? Et le troisième meurtre, inspecteur?
Eh bien, l'effet semble assez simple, là aussi. Gladys a servi le thé, puis est retournée à l'office chercher le plateau de victuailles avec lequel elle n'a jamais dépassé le hall et qu'elle a abandonné là. Elle avait eu, semble-t-il, la tête ailleurs toute la journée. Après ça, personne ne l'a plus revue. La cuisinière Mrs. Trump en a tout de suite conclu qu'elle avait pris sa soirée sans rien dire à personne. Elle fondait, je crois bien, ses soupçons sur le fait que la petite bonne avait enfilé ses meilleurs bas nylon et chaussé ses souliers du dimanche. La suite devait lui donner tort. La fille s'est apparemment rappelée in extremis qu'elle avait laissé du linge à sécher dehors. Elle a couru le chercher et en avait décroché la moitié quand quelqu'un lui a passé par surprise un bras autour du cou. Et puis voilà.
Quelqu'un de l'extérieur ?
Peut-être. Mais peut-être aussi quelqu'un de l'intérieur. Quelqu'un qui aurait attendu le moment propice où elle serait seule. Elle était très nerveuse la première fois que je l'ai interrogée. Et je regrette de n'y pas avoir accordé assez d'importance.
Oh, mais comment l'auriez-vous pu ? Les gens sont si souvent l'air coupables et dans leurs petits souliers quand la police les interroge.
C'est ce que je me suis dit. Mais dans le cas présent, il y avait davantage. Je crois que cette fille avait vu venir quelqu'un se livrer à un acte qui méritait explication. Il n'a pas su agir de quoi que ce soit de bien extraordinaire. Sinon, elle se serait crue obligée de vendre la mèche. Mais elle a dû se trahir devant la personne en question. Et la dite personne en aura conclu que Gladys représentait pour elle un danger.
Raison pour laquelle elle l'aura étranglée avant de lui planter une pince à linge sur le nez.
Oui, c'est ça le côté ignoble, la touche de dérision et de mépris. Le détail bravache et superfétatoire.
Ah non, pas superfétatoire pour deux sous. Ne voyez-vous donc pas que tout ce que nous venons d'évoquer forme un ensemble cohérent ?
Je ne vous suis pas très bien, Miss Marple. Qu'entendez-vous par « ensemble cohérent » ?
Eh bien, je veux dire par là qu'il me semble... Je veux dire que, considéré en tant que suite logique, enfin quoi ? Il faut bien admettre les faits.
Ben, je crains de ne toujours pas vous comprendre.
Voilà, je veux dire... D'abord, nous avons Mr. Fortescue. Rex Fortescue, tué dans son bureau de la City... Et puis, Mrs. Fortescue, ici, dans la bibliothèque, en train de prendre son thé, avec des scones et du miel. Enfin, la pauvre Gladys, avec la pince à linge fichée sur le nez, comme pour mettre le tout en évidence. Cette charmante Mrs. Lance Fortescue m'a dit qu'il semblait qu'il n'y avait à tout ça ni rime ni raison. Mais... Je n'ai pas pu partager ce sentiment parce que la rime est précisément ce qui frappe. Vous n'êtes pas de mon avis ?
J'ai bien peur de ne pas...
Corrigez-moi si je me trompe, inspecteur, mais je vous donne 35 ou 36 ans. Or, c'est précisément l'époque où on a pu noter une levée de bouliers, quand vous n'étiez encore qu'un garçonnet, veux-je dire, à l'encontre des comptines pour enfants et haute nursery rhythm. Mais pour qui a été bercé par les contes et sa mère Loa, c'est d'une clarté aveuglante, je vous le garantis. Ce que je suis en train de vous demander, c'est si... Miss, il va de soi, j'en suis consciente, que vous tenir à vous ce genre de discours est bien outrecuidant.
Je vous en prie, Miss Marple, vous pouvez me dire tout ce qui vous passe par la tête.
Vous êtes trop aimable. Je vais m'exécuter. Encore que, comme je l'ai déjà souligné, je le fasse avec la plus extrême réticence car je sais à quel point je suis vieille et je le cerveau embrumé. Sans compter qu'il n'est pas exclu que mon idée ne vaille pas tripette. Voici ce qui me turlupinait. Avez-vous abordé la question des merles ?
En effet, la vieille dame lui demande s'il a enquêté sur les merles. Face à l'incompréhension du policier, Miss Marple chantonne une comptine dont les paroles semblent étrangement correspondre à la présente affaire. Tout y est. Le roi Rex, dans sa trésorerie, le bureau directorial, la reine, Adèle, avec son pain et son miel, la servante, Gladys Martin, qui pendait le linge dans l'arrière-cour. Un oiseau lui a becqueté le nez massacré par un cintre. Une poignée de seigle dans le veston. Et Miss Marple se demande donc où on va trouver dans cette affaire 24 merles dans un pâté en croûte. Pendant que Neil procède à son enquête officielle, Miss Marple, de manière plus souple et tout aussi efficace, fait parler les uns et les autres sur les autres membres de la maisonnée, sur les domestiques, sur leur caractère respectif et sur l'histoire de la famille. Miss Marple a compris que l'assassin a eu ce qu'il voulait et ne commettra plus de meurtre. Miss Marple et Neil, pour la seconde fois, se confrontent les renseignements qu'ils ont obtenus. Elle affirme, modestement, qu'elle a dénoué les éléments ténébreux de l'affaire et qu'elle sait désormais qui a tué Rex, Adèle et Gladys. Et selon quel enchaînement pour les mobiles. Car le coupable n'est autre que Lancelot Fortescue, dont le but était de se venger de son père qu'il avait chassé de la famille, de stopper l'hémorragie financière née des lubies de Rex, mais aussi d'obtenir les droits successoraux de la mine des Merles située en un endroit où l'on a récemment découvert de l'uranium. Lancelot avait aussi souhaité la mort de sa belle-mère, Adèle, afin qu'elle n'hérite pas d'une grande partie de la fortune familiale. C'était bien lui que Mary Dove avait aperçu dans le jardin. Enfin, il avait étranglé Gladys pour se faire un témoin à charge. Pour couvrir ces trois meurtres et détourner les soupçons, il avait utilisé la comptine évoquant les merles, telle que relatée par Miss Marple. Merci Françoise, merci Michel. Prochainement, nous évoquerons les profils spécifiques de ces deux héros d'Agatha Christie, Miss Marple et Hercule Poirot. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. Le temps n'efface rien, il atténue seulement. Elle est bien sûr d'Agatha Christie. Vous retrouverez toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union Régionale, afetca-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur. C'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.